autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur la connerie. Oui, la connerie, vaste sujet, me direz-vous, et qui nous concerne tous, même si les cons, évidemment, ce sont toujours les autres. Mais est-il possible d'étudier scientifiquement, neurologiquement, psychologiquement, voire philosophiquement, la connerie ? Défi relevé par notre invité, le psychologue et journaliste Jean-François Marmion, qui a convoqué des psys de tous les pays, mais aussi des neurologues, des philosophes et des sociologues, pour tenter de mieux comprendre notre inépuisable connerie humaine, à ne pas confondre avec l'erreur ou la bêtise, car la connerie, ça suppose en plus une certaine assurance, un certain aplomb autour de la question « Pourquoi faire la psychologie de la connerie ?» Bienvenue. Bonjour Jean-François Marmion.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour tenter de faire ensemble la psychologie de la connerie. C'est le titre de cet essai que vous venez de publier, Jean-François, aux éditions Sciences Humaines. Fallait oser tout de même. Je rappelle que vous êtes psychologue et rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy. Alors, qu'est-ce qui vous a incité, Jean-François Marmion, à vous lancer dans une telle entreprise, à faire plancher les plus éminents spécialistes en psychologie, en neurosciences ou en philosophie sur un sujet aussi con, enfin je veux dire aussi complexe que la connerie?
Je suis parti d'une lacune de la psychologie. La psychologie est censée étudier notre comportement au quotidien et bizarrement, la connerie, ça l'intéressait pas trop, alors que la connerie nous concerne tous. On connaît tous des connards au quotidien. Parfois, on travaille avec eux. Parfois, c'est les voisins. Parfois, on en croise sur la route. Parfois, c'est notre propre famille. Et puis, on est...
Parfois, c'est nous-mêmes aussi.
Parfois,
mais ça,
c'est
on
nous-mêmes.
Moins, hein.
Pas assez souvent, mais parfois, c'est nous-mêmes. Et puis, on est pris pour des cons au quotidien par certains médias, par certains politiques, par la publicité, par certains collègues, par nos enfants s'ils sont ados par exemple, et donc ça peut nous rendre même physiquement malades, ça peut nous rendre très stressés, dépressifs de voir autant de conneries autour de nous, et pourquoi ne pas s'y intéresser? Et puis les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, disait Audiard, bah moi j'ai osé.
Ah oui, vous avez osé, Jean-François Marmion, faire une psychologie de la connerie. Est-ce que vous pourriez oser une petite définition de la connerie? C'est difficile parce que le sujet est tellement vaste.
Oui, en fait... Il y a plusieurs définitions possibles de la connerie. En fait, c'est comme un spectre. Il y a différents degrés de connerie. Il y a des cons plus ou moins bien intentionnés. Il y a des cons plus ou moins intelligents, car il y a des cons extrêmement intelligents. Il y a des cons nuisibles, il y a des cons inoffensifs. En gros, moi, ce que j'ai retenu des différentes contributions, c'est que on commet tous au quotidien des erreurs, des petites conneries. On s'en aperçoit, alors on s'en repent. « Ah, je ne le ferai plus, quel con !» Voilà. Mais il y a le con qui, lui, persiste dans son erreur, signe, la revendique et se croit plus malin que les autres. Lui, là, on approche du connard. Vous voyez, c'est le con.
Il y a des nuances. Hein,
c'est
oui.
Le con nuisible, le con vraiment péjoratif.
Autour de la question pourquoi et comment faire la psychologie de la connerie, allez, commençons pour aborder cet inépuisable sujet par quelques pistes de réflexion sonores avec le mix « Je suis con, mais je me soigne » signé Hugo Violas.
Des cons, tous des cons. Je suis cerné par la connerie.
Si jamais on voulait être con, qu'est-ce qu'il faut faire?
D'accord, les rues étant con.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons.
Ce qui est remarquable, au fond, c'est que des gens très intelligents peuvent être très cons et que la connerie, donc, est très, très largement partagée par tous les membres de notre société.
Ça, c'est quoi?
Ah, ça, c'est un détecteur de conneries. Allez-y.
Déjà, sans doute qu'étymologiquement, c'est un petit peu sexiste comme expression, alors.
Ah oui! Effectivement.
Ils sont arrivés en ordre dispersé, mais très vite, ils se sont rangés derrière leur bannière orangée. Il faut dire qu'ils revendiquent haut et fort leur liberté d'appartenir au cercle très fermé des cons.
Eh bien, il faut persister dans la connerie. C'est-à-dire qu'il faut être reconnu con à part entière. Il ne suffit pas d'être con, il faut être fier de l'être. Et nous sommes tous fiers de l'être, n'est-ce pas?
Oui.
Et ouais, c'est ça, con et fier de l'être, c'est une manifestation qui a réellement eu lieu à Bourg-en-Bresse. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Alors, con et fier de l'être, pourquoi pas?
On est déjà un peu moins con hein, quand on est...
Lorsqu'on prend conscience de sa connerie, ouais. on sort de la connerie un petit peu, on s'en éloigne à petits pas en tout cas. Le vrai con, le bon connard de bas du front, lui, il est persuadé que c'est le monde entier qui est con, c'est le monde entier qui doit se plier à sa vision de la réalité sous peine de conneries. Donc, con, fier de l'être, oui. Si c'est des petites conneries, c'est pas grave. Si on considère que c'est une connerie d'être fan d'une rockstar ou d'avoir un loisir un peu inhabituel, si les gens vous prennent pour un con mais que vous êtes heureux comme ça, bravo. Si vous êtes un con nuisible, là, c'est autre chose.
Alors moi, j'aimerais bien d'abord, Jean-François Marion, qu'on s'arrête sur ce mot con, son étymologie franchement sexiste et misogyne.
Oui, il y a plusieurs étymologies possibles, mais la plus facilement retenue, ça vient du latin cunus, qui signifiait le fourreau dans lequel on rangeait un glaive. Donc pour rabaisser quelqu'un, on lui disait « mais t'es stupide, on dirait le sexe d'une femme ».
Et voilà. Le con, c'est le sexe d'une femme.
C'est le sexe d'une femme, le con. D'ailleurs, Brassens avait une chanson dans laquelle il disait « c'est injuste, madame, et c'est désobligeant que ce morceau de roi de votre anatomie porte le même nom qu'une foule de gens ». Voilà. Mais il y a une autre étymologie qui est « couléus ». Alors ça, ça désignait un sac. Par analogie, c'est devenu une couille. Et donc, c'était « couillon ».
Ah, donc couillon et con, ça a à voir.
C'est deux branches étymologiques différentes.
On préfère affubler les autres. Hein. En général, ce sont plutôt les autres qui sont con. Un con aura peut-être du mal à se reconnaître dans votre livre. Quoique ceci dit, offrir psychologie de la connerie à quelqu'un qu'on considère comme particulièrement con, ça pourrait être un joli cadeau.
Mais moi, je lance un appel à tous les pays qui nous écoutent. Lançons un conton, un connard-ton, c'est-à-dire offrez un psychologie de la connerie à un connard que vous connaissez, mais sans dire qui vous êtes. Posez-le sur son bureau, dans sa boîte aux lettres, voilà, le message sera passé.
Et parce qu'il y a dans cet ouvrage même des philosophes qui ont réfléchi donc sur la connerie, vous avez notamment rencontré un professeur de philosophie à l'Université de Californie, il s'appelle Aaron James, alors lui il a une théorie des connards. C'est quoi sa théorie des connards?
Alors la théorie des connards, c'est que le connard c'est celui qui s'arroge une supériorité par rapport à vous. Moi d'abord, alors que rien ne le justifie, mais en gros, j'ai encore été grossier, mais moi d'abord et je vous emmerde. Ça, c'est le connard. C'est pas le petit con comme on peut être quand on se dit tous les jours « Ah, quel con !» Là, c'est vraiment le connard de compétition. Alors lui, il a écrit un livre carrément pour expliquer qu'il y en a un à la Maison Blanche en ce moment. Ça n'engage que lui. Mais enfin, voilà, pour dire que moi, je fais ce que je veux, peu importe le reste du monde, je n'ai aucune légitimité pour ça, peu importe.
Peu importe, je suis con, je le revendique. Il y en a combien en pourcentage
des
cons ou des connards? Est-ce que c'est jouable, ça? Vous qui avez enquêté quand même sérieusement auprès de sociologues, de philosophes, de neuroscientifiques.
Alors, pour estimer combien il faudrait être connard, il y aurait deux solutions. Soit on interroge des gens représentatifs de la population générale. Est-ce que vous vous considérez comme un connard? Bon, je pense que les résultats vont être biaisés, ils vont être anormalement bas.
Oui, probablement.
Ou alors, on va essayer de les étudier de l'extérieur, on va prendre une cohorte de connards qu'on va suivre pendant 20 ans et on va voir ce qu'ils deviennent. Mais c'est pareil, comment les sélectionner? Comment dire celui-là, on va le mettre chez les cons, celui-là chez les intelligents? C'est pas possible. Donc, statistiquement, on est tous un peu cons, 100% de la population. Mais les vrais connards nuisibles, c'est livré à l'appréciation de chacun. Je ne sais même pas si c'est possible de le dire objectivement.
Mais de toute façon, c'est toujours un jugement de traiter l'autre de con, même de se traiter soi-même de con, c'est quand même toujours un jugement.
Je dirais même plus, traiter quelqu'un de con, déjà en soi, ça peut être une connerie. On juge quelqu'un sans le connaître, au fond. Sur la foi d'un détail qui ne nous a pas plu, d'une réflexion qui ne nous plaît pas, on dit c'est un connard. On juge à l'emporte-pièce, en sous-entendant que nous, on est quelqu'un de bien, que lui, c'est un nul, donc on est déjà con.
Alors comment lutter contre? Est-ce qu'un monde sans connards est possible? Vous ne nous faites pas trop d'illusions, Jean-François Marmion? Allez, on continue de s'interroger philosophiquement sur la connerie avec un nouvel éclairage du professeur de philosophie et écrivain Stéphane Flocari.
Qu'est-ce qui fait la différence au fond entre la bêtise et la connerie? C'est le philosophe Adorno qui compare le bête à cet escargot dont les antennes ont été abîmées par un choc. Et peut-être que le bête, c'est celui qui n'a plus les antennes pour percevoir dans la réalité correctement ce qui se passe autour de lui et qui a une perception déformée du réel. Et est-ce que la bêtise est un fait de nature? Est-ce qu'on est bête ou intelligent? Évidemment pas. Ou bien est-ce que la bêtise est palliée à un certain nombre d'interactions qui se sont mal enclenchées, soit entre des sujets humains, soit entre le sujet et la réalité. Et d'autre part, ce qui singularise la connerie par rapport à la bêtise, c'est que je crois qu'elle est sans fond et elle est sans fin. Le film Le Dîner de cons est pour ça absolument une merveille. La dernière scène, quand un con essaye de se retenir d'être con, il n'y arrive pas. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement, il y a pas dans le con ou dans la connerie un désir de connerie?
Et voilà un désir de connerie chez l'être humain. Le désir quoi? D'en faire trop, Jean-François Marmion?
Le désir d'en faire trop ou le désir d'en faire pas assez peut-être aussi.
C'est ça.
Mais ça fait du bien aussi de se laisser aller être con. Hein. Faut pas diaboliser la chose. Il y a un côté régressif. Quand on déconne entre amis, c'est bien qu'on se laisse aller à dire des conneries, à faire des conneries.
Non, on est conscient.
À rire de choses qui ne feraient pas rire quelqu'un d'autre qui n'est pas dans notre petit groupe. On joue au con et ça fait un bien fou. Si on essaye d'être sage toute la journée, d'être réfléchi toute la journée, en gros, on essaye d'être parfait. Et ça, c'est une belle connerie. On n'y arrivera pas et c'est là où on juge les autres qui ne sont jamais assez bien.
Et c'est là où on risque d'être con. Quelle est la différence entre bêtise et connerie, Jean-François Marmion?
Alors, d'après les contributeurs du livre, la bêtise, c'est plutôt une insuffisance. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être intelligent, soit parce qu'il n'a pas reçu l'éducation pour ça, soit parce que de nature, il est un peu bébête, quoi. Littéralement, il est bête. On imagine qu'il est comme un animal, alors que les animaux ne sont pas tous cons, loin de là. Tandis que le con, lui, le con, ce qu'on appelle le sot, c'est le con intelligent. C'est celui qui a très bien pu faire des études. C'est celui qui peut très bien avoir développé une théorie du monde, parfois une théorie du complot, parfois une théorie philosophique, mais qui est complètement à côté de la plaque. Et parfois, il peut être nuisible. Hein. Il y a des connards qui sont de grands intellectuels qui fondent des partis extrémistes.
On le voit bien aujourd'hui, on va y revenir, hein, dans les réseaux sociaux, dans nos médias. Edgar Morin, dans votre ouvrage, il rappelle bien qu'au fond, la connerie, ça unit. Alors lui dit la bêtise, l'erreur et l'assurance, l'aplomb. Hein, le fait qu'on croit qu'on est sûr qu'on a raison.
L'antidote,
il y a pas mal de cons qui sont sûrs qu'ils ont raison.
Oui, l'antidote au doute, à la connerie, c'est le doute. Hein. C'est je peux me tromper, peut-être que l'autre, après tout, a raison, peut-être que je commets une erreur. Et si on prend ces précautions-là en assénant des théories, on prend des précautions par rapport à la connerie. Le con, lui, doute pas. Le con, il n'a aucune envie de se remettre en question, c'est trop fatigant, ça égratigne son amour propre. Le con est con avec aplomb, et le connard est con avec autorité en plus.
Autour de la question, pourquoi faire la psychologie de la connerie, des cons et des connards? Peut-être parce que c'est tout un art, l'art de la connerie. Le groupe de rap Bois Vert sur RFI.
Attention, j'aime pas les questions.
Moi, j'aime pas les conneries.
Bon, ça aussi. Où avez-vous appris à dire autant de conneries?
2 ans de télé.
Alors là, excuse-moi.
Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'art de la bêtise. J'ai brûlé l'étendard avec toutes ses devises. J'ai pas fait mes devoirs face au pouvoir étatique. Je rembourserai mes avoirs avec ma dialectique.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'art de la bêtise. J'ai l'art de la connerie, je suis l'art de la bêtise. J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise. J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise.
Un air de déjà vu, t'as vu, je me mets à nu. Exhibitionniste, pas puni par la police. Ma fiche d'impôt, c'est un abstrait tableau. Je vois l'idée, mais dans le fond, je comprends pas la démarche.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'art de la bêtise. Ben moi, tu vois, dans le fond, dans ce monde, je préfère être ivre. J'ai la lâcheté humaine, au fond de la remise. J'y vais les soirs de pluie, me rappeler ce que j'oublie.
Je suis sous, traitant de spiritueux. Dernier maillon de la chaîne, si tu veux. En jet de 27 lacs depuis une semaine. Après tournée estivale chez les fous de ce monde.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise. J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise. T'en fais pas mon ami, paraît que ça se contamine. Si mon cœur est à gauche, ma bite est à droite. Je saute de la bourgeoisie, j'appelle ça la lutte des classes.
Moi je saute les étapes et me gaufre. Je rattraperai mon retard en marchant sur la tête des autres. J'ai peut-être des os, mais je suis mou, désolé. Laisse les manettes à ceux qui sont chauds d'être honnêtes.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise. Trop bu dans la marmite, trop fréquenté les druides. Viens chez moi mon pote, j'habite chez une copine. Les générations s'enchaînent et puis se reproduisent.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise.
J'ai l'art de la connerie, je suis l'as de la bêtise. Le rap de Bois Vert sur RFI, ça vous parle, Jean-François Marmion?
Oui, il y avait une très belle phrase. Alors de mémoire, c'est « je rattrape mon retard en marchant sur les autres ». C'est génial, c'est tout à fait ça.
Est-ce qu'on peut dire aussi que connerie avouée, connerie à moitié pardonnée ou...
Oui, on dit faute avouée à moitié pardonnée. Donc connerie avouée à moitié pardonnée aussi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas si facile d'avouer ces conneries, ça dépend lesquelles. Hein. Il y a des conneries qui nous contraignent comme des boulets quand même tout au long de notre vie.
Vous faites une typologie des cons dans cet ouvrage. Parce que de même qu'il y a des intelligences multiples, il y a des conneries multiples.
Ah, puis il n'y en a pas qu'une, oui, évidemment. Il y a la connerie dont on peut faire preuve dès qu'on se met à parler de croyances politiques ou religieuses. Il y a la connerie...
C'est quoi la connerie dans ces cas-là? C'est de s'accrocher, de dire « moi j'ai raison » et...
Oui. Ça,
et les autres font des
conneries. Oui, le problème, ce n'est pas la croyance en soi. On peut difficilement échapper à la croyance. Même quand on est athée, on croit à certaines valeurs, enfin, on croit à plein de choses. Mais définir que notre croyance est la seule bonne et que les autres doivent disparaître, bon, là évidemment, c'est la connerie par excellence. On peut être con aussi dans le domaine social, on peut être con par maladresse, on peut être con parce qu'on est timide, parce qu'on est empoté, c'est pas la même connerie évidemment. On peut être con parce qu'on sait pas comment faire face à nos enfants, face à une maladie, face à notre parcours professionnel. Il y a des contextes de la connerie. On peut être con dans un domaine et pas du tout dans un autre.
Et puis, c'est d'ailleurs un chapitre que vous avez rédigé vous-même. Un être humain, ça se trompe énormément. Ça fait partie de la condition humaine que de se tromper ou que d'avoir des biais qui font que parfois... Ben on est con.
Voilà, l'étude des biais cognitifs a valu un prix Nobel à un psychologue, Daniel Kahneman, qui est dans le bouquin d'ailleurs, un prix Nobel en économie. Les biais cognitifs, c'est les espèces de raccourcis de la pensée. C'est les jugements qu'on porte extrêmement vite sur quelqu'un au premier coup d'œil, la première impression qu'on se fait, ou alors comment se repérer immédiatement dans un monde complexe. Alors là, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est des raccourcis. Les raccourcis, mais ce n'est pas de la connerie pour autant, parce que très souvent, les raccourcis tombent juste. Et on peut très bien penser des grosses conneries en prenant notre temps. Lui, il appelle ça système 1, système 2. Le système 1, c'est celui qui va très très vite, qui confirme nos croyances, qui est à l'origine de tous nos biais. Mais le système 2, c'est le moi plus réfléchi, qui prend du recul. Mais on peut très bien intégrer une connerie repérée par le système 1 pour entretenir un système de croyances avec le système 2 qui est complètement à côté de la plaque, une fausse croyance ou une impression de supériorité, par exemple.
C'est-à-dire que notre condition humaine même, elle nous amène parfois à la connerie. C'est quand même ça aussi. Est-ce qu'on est les plus forts, justement, dans le règne du vivant, nous, les humains?
Alors, j'aimerais bien réserver pour le volume 2 une question qui est, les animaux sont-ils plus cons que nous? Y a-t-il des cons chez les animaux? Est-ce qu'on peut considérer que certaines espèces sont stupides ou qu'au sein d'une espèce, il y a des individus qui sont vraiment cons? Ça vaudrait le coup de se pencher sur la question. Je ne pense pas que la connerie soit le propre de l'homme, parce que ça encore, c'est penser qu'on est supérieur à quelqu'un. Nous, au moins, on a la connerie. Bah, peut-être pas. C'est peut-être pas notre exclusivité.
En tout cas, la connerie, elle est partagée dans toutes les langues, sur toute la planète et dans toutes les cultures. Ça, il n'y en a pas une qui est plus conne qu'une autre.
Non, je ne pense pas. On a tendance à penser que notre culture est la plus conne que les autres, tout de même. Un peu plus depuis quelques années, on est beaucoup dans la repentance en France. Hein, on est méchant, on est bête, on est feignant. Enfin, on sort tous. Mais pendant longtemps, peut-être qu'on a été arrogant et qu'on a encore gardé cette espèce d'arrogance. On veut donner des leçons au monde entier, alors que voilà, on n'a pas spécialement plus de lumière que les autres. À notre époque.
Une de nos auditrices, Aya Houndé au Cameroun, nous pose une question étonnante. Elle dit, mais au fond, pourquoi est-ce que, je la cite, hein, pourquoi j'ai l'impression que plus on est con et plus on est heureux et que la rançon de l'intelligence ou du génie est parfois lourde? On parle d'imbécile heureux, est-ce qu'on parlerait de con heureux et heureux de l'être?
Comme j'ai dit que l'antidote à la connerie, c'était le doute. Le doute rend rarement heureux quand même. On ne sait plus à quel saint se vouer quand on doute.
Donc précisément, d'être con et d'être absolument sûr de soi pourrait rendre plus heureux. On ne se pose plus de questions,
alors,
on est heureux.
Ça peut rendre plus heureux quand on se pense supérieur aux autres et qu'on a tout compris. On peut se croire plus heureux. En même temps, on doit bien voir que les gens ne sont pas d'accord, qu'ils vous fuient, qu'on est obligé en permanence de se justifier. Je ne pense pas que ce soit très reposant. Je ne sais pas s'il vaut mieux être con et heureux ou intelligent et malheureux. C'est une vraie question. Moi, je ne sais pas la trancher, personnellement.
Autre question que je vous pose, Jean-François Marion. Quelle différence entre une erreur et une connerie?
L'erreur, on en prend conscience. Et on se promet de ne pas recommencer. La connerie, c'est une erreur dont on ne prend pas conscience et qu'on persiste à faire, soit parce qu'on n'a pas les moyens intellectuels de s'apercevoir qu'on a fait une connerie, soit parce qu'on refuse de reconnaître nos torts. Et là, on fait souffrir l'entourage. Voilà. C'est à vous de vous adapter à moi, même si j'ai tort. Ça, c'est la connerie.
Là, c'est la signature du con. Autour de la question, comment faire la psychologie de la connerie? Nouvelle piste de réflexion de l'écrivain Alexandre Lacroix, qui dirige la rédaction de Philosophie Magazine. Et si le con n'était pas toujours celui qu'on croit?
Il y a quelque chose qui, m'a toujours amusé, c'est ce qu'on appelle la théorie de la carte postale beauf. Quand vous allez, dans une station balnéaire en vacances, vous avez des cartes postales beauf, c'est-à-dire des cartes postales où... on vous dit, vous voyez les fesses d'une bimbo, il y a écrit « Bonnes vacances » sur ses fesses, ou vous voyez des gens déguisés avec des perruques. Enfin, des cartes postales vraiment ridicules, un peu graveleuses, moches. La théorie de la carte postale beauf serait une théorie sociologique qui dit que les gens achètent ces cartes postales en se disant qu'il y a d'autres personnes qui sont assez connes pour les acheter pour de vrai, c'est-à-dire au premier degré. Et donc, les gens qui les achètent au second degré pour faire une blague à leurs copains, en pensant qu'il y a quelques cons qui les achètent au premier degré. Or, il est bien possible que personne n'achète jamais cette carte postale beauf au premier degré. Je trouve que cette théorie de la carte postale beauf met un peu en abîme la question de la bêtise. Est-ce que la connerie n'est pas quelque chose qu'on suppose toujours chez les autres et que de temps en temps, on imite alors qu'elle n'existe peut-être pas ailleurs.
Vous voulez réagir à cet éclairage pas con sur la carte postale beauf,
Jean-François? Oui, c'est ce qu'on appelle le biais de complaisance. On se croit plus malin que les autres. Alors, il y a plusieurs variations sur ce thème-là. Il y a ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger aussi, du nom des psychologues qui l'ont cerné. Ça veut dire qu'on se croit toujours plus malin, et y compris que les experts. Hein, c'est du genre, moi, si j'étais à l'Élysée, moi, je ferais ça. Hein. Et puis l'expert, il ne connaît rien. On se surestime en permanence. Mais ça, c'est variable selon les cultures. Par exemple, l'effet Dunning-Kruger est inversé dans certaines cultures en Asie, où il est plutôt de mauvais ton de se mettre en avant et de se croire plus malin que les autres. Donc on a tendance à se sous-estimer par rapport aux gens qui, effectivement, en savent moins que nous.
Donc on en revient à la question du jugement, oui. Hein, la connerie ou le con, qu'on se juge soi-même con ou qu'on juge les autres, tous les autres sont des cons, il y a toujours cette notion de jugement, d'où du coup, vous l'avez un petit peu évoqué, mais à nos auditeurs, cette fois-ci à Abidjan, Mustapha nous dit, mais est-ce qu'il n'est pas utile d'être con parfois, et est-ce que ce n'est pas une sorte d'exutoire face aux dures réalités de la vie? Et parfois c'est un peu fou, c'est presque poétique parfois.
Ah mais absolument, ça peut être tout à fait... Un soulagement de se laisser aller à être con. Mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Notre cerveau est construit comme ça. Il est fait pour extraire des détails de notre environnement extrêmement complexe qui rassurent notre vision du monde, qui la confortent. C'est ce qu'on appelle le biais de c'est le biais le plus célèbre et il m'échappe donc j'ai l'air d'un con. C'est le biais de confirmation. Voilà.
Le biais de confirmation. Il y a con dedans, mais c'est confirmation.
Ça, c'est redoutable. C'est vraiment, je défends telle vision de la réalité, je vais scanner mon environnement et tout ce qui vient en renfort de cette vision du monde, c'est la vérité. Parce que c'est en accord avec ce que je ressens. Tout le reste, je l'écarte. Les théories du complot se nourrissent de ça. Il y a un détail qui nourrit la théorie du complot. Il y en a 200 qui vont à l'encontre. On retient le détail qui confirme notre hypothèse. On ne peut pas faire autrement que, avec notre fameux système 1, de réfléchir vite, le plus efficacement possible. Souvent, ça marche. Souvent, quand même, on a raison. Mais parfois, c'est n'importe quoi.
Et le fait de le savoir, d'où l'intérêt peut-être de faire une psychologie de la connerie, mais le fait de le savoir peut permettre d'être un peu moins con, de réagir un peu moins vite, ou de moins chercher à confirmer que finalement ce qu'on pense est juste et vrai.
Hélas, il a été montré que même quand on connaît les différents biais cognitifs, on tombe dedans, les pieds joints. On peut, encore une fois, ce serait épuisant tous les jours, à chaque minute, de suspendre notre jugement en permanence, de dire attention. Avant de juger telle personne, je vais réfléchir, je vais me dire qu'il y a peut-être des circonstances atténuantes, que peut-être sa vie est plus complexe que je l'imagine, que peut-être la théorie que je crois juste est beaucoup plus compliquée. Je vais prendre le temps d'examiner les arguments contraires avant de me prononcer. C'est invivable pour vous et pour votre entourage, mais non.
On est humain. Alors ça, c'est Laurent Beg dans votre ouvrage, qui est un professeur de psychologie, qui cite Audiard, le con, ça ose tout. L'espèce humaine, ça ose tout.
Oui, alors lui, il fait référence au fait que l'espèce humaine ose massacrer les autres espèces pour se nourrir, alors qu'elle pourrait très bien vivre autrement. La phrase d'Audiard, il y a du pour et il y a du contre là-dedans. Oui, le con, il ose tout, avec aplomb, en disant c'est moi le meilleur, j'ai tout compris. Mais en même temps, il y a des cons qui n'osent rien. Il y a des cons qui passent leur temps à se morfondre dans leur vie qui ne leur plaît pas, et c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute au président, la faute à l'Europe, c'est la faute aux parents, c'est la faute aux conjoints, c'est la faute à plein de gens. Et eux, c'est les victimes, faut les plaindre, et ils emmerdent tout le monde.
Autour de la question pourquoi faire la psychologie ou la sociologie de la connerie, je propose un nouvel éclairage de l'informaticien Roberto Di Cosmo. Alors lui, il a oublié d'être con, il est à l'initiative du projet de bibliothèque universelle du logiciel, mais il a aussi des amis informaticiens qui travaillent parfois sur les cons.
J'ai croisé un copain qui m'avait montré un diagramme sur un axe. Vous prenez vos actions, hein, donc votre action peut créer un préjudice pour quelqu'un ou un avantage pour quelqu'un. Et la même action peut créer un préjudice pour vous ou un avantage pour vous. Alors, il y a les personnes intelligentes qui font des actions qui font un avantage pour eux-mêmes et pour les autres. Après, vous avez les martyrs. Ce sont les personnes qui acceptent un préjudice pour eux-mêmes pour les biens des autres. Après, vous avez les délinquants, c'est-à-dire quelqu'un qui font quelque chose, qui endommage les autres pour en tirer un avantage personnel. D'accord ? Les salauds, on pourrait dire, si vous voulez. Et enfin, vous avez les cons. Alors, les cons, ce sont les gens qui font des actions, qui font mal à tous les autres, tout en faisant mal eux-mêmes. Vous voyez ? Donc, pour moi, c'est ma définition de la connerie. D'accord ? Les cons, ce sont des gens qui font des choses stupides, qui ne servent ni à eux, ni à les autres, qui créent un problème à tout le monde. Donc ça, on dit, mais qu'est-ce que t'es con ?
Belle définition de la connerie.
Ah, super, vous avez trouvé des beaux documents, là. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça, le con agit même à son détriment. Qu'il puisse être nuisible aux autres parce qu'il se prend pour quelqu'un de plus malin, ça se comprend. Mais il se fait du mal, en plus, parce que les gens le fuient. Parce que les gens n'ont pas envie d'être avec lui, parce que les gens passent leur temps à lui apporter la contradiction. C'est épuisant pour lui de se justifier. C'est pour ça que j'avais demandé à Ron James, mais est-ce que les cons ne sont pas plus heureux ? Il a dit pas forcément, parce que eux-mêmes passent leur temps à juger tout le monde, mais à être jugés en retour. Et il ne leur vient pas l'idée d'agir autrement. Il dit que de toute façon, les cons, même avec le temps, ça ne change pas, sauf exception, sauf vraiment s'il y a une catastrophe dans leur vie qui les oblige à tout recadrer. Ils peuvent se bonifier, mais il ne faut pas compter dessus.
Ça, c'est au niveau individuel et au niveau collectif, au niveau de nos sociétés. On peut quand même se demander aujourd'hui, notamment face au changement climatique, si on n'est pas tous en train de se conduire comme des cons.
Oui, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y avait un grand psychologue et sociologue qui s'appelait Gustave Le Bon, qui avait parlé de la psychologie des foules, qui disait que les foules, alors là, je vais être horrible, mais les foules, c'était comme quelqu'un qui est tombé en état d'hypnose, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus de volonté. Bon, l'hypnose, c'est pas ça, mais enfin, lui, il voyait ça comme ça. Ou il disait, oulalors, les foules, c'est comme une femme. On fait ce qu'on veut avec. Voilà, ça n'a pas de cerveau. Franchement, il disait ça. Donc, il y a toujours eu des foules, des mouvements de foules appréciés comme des conneries. Il y a toujours eu des gens pour dire des conneries sur les foules et sur les femmes. Dans les années 30, c'était des mouvements de foules qui sont à l'origine de ce qu'on connaît. Et aujourd'hui encore, il y a des conneries collectives, que ce soit sur le web ou que ce soit dans certains domaines religieux. Oui, oui. Mais ça, c'est vieux comme le monde. À partir du moment où vous mettez des gens ensemble, vous avez quand même un risque non négligeable qu'il y ait une connerie qui arrive. On en revient encore à Brassens, le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on n'est plus de quatre, on est une bande de cons.
On va écouter Brassens dans quelques instants, mais auparavant, Jean-François Marmion, j'aimerais bien connaître la différence entre connerie et méchanceté.
Alors ça, c'est une bonne question, parce que je suis pas sûr que ce soit facile à trancher. On peut être con sans être méchant. On peut être con, un bon con inoffensif. Voilà,
un brave con,
un pauvre con, voilà, c'est gentil. On peut être un sale con. Alors là, on est con et en plus, on est méchant. On peut être franchement toxique et on peut pousser les gens au suicide. Donc, ce n'est pas synonyme. Hein. Mais la question de la méchanceté et de la connerie est une très bonne question, de même que la question du mal. J'aimerais bien creuser la question du mal. L'idée qu'on
se fait
du mal. Ça
a à voir avec
mal.
La connerie ?
Je ne sais pas, prenons Hitler par exemple. Est-ce qu'il était mauvais ? Ouais. Est-ce qu'il était con ? On dirait bien. Est-ce qu'il était méchant ? On dirait bien. Donc lui, hors catégorie.
Il coche dans toutes les cases. Enfin, on en a un en ce moment. On a parlé tout à l'heure à la tête des États-Unis qui pourrait aussi cocher dans pas mal
Alors,
de cases.
Alors, est-ce qu'il est aussi méchant qu'Hitler ? Quand même pas. Est-ce qu'il est aussi con ? J'ose espérer que non. Bon, je vais faire l'amour.
Allez, ça se mélange et ça s'embrouille. On va dire, quel que soit l'âge du capitaine, autour de la question de la connerie, on écoute évidemment Georges Brassens sur RFI. Le temps ne fait rien à l'affaire.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Georges Brassens sur RFI, la plus belle chanson qui soit sur la connerie.
Ah oui, il en a fait plusieurs, mais Brassens, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il fait l'unanimité, tout le monde dit que c'était un grand poète, etc. De son vivant, pas du tout. Il y avait quand même une sacrée tripotée de connards qui lui tombait dessus, qui le censurait à la radio. Il ne pouvait pas passer à la radio à 22h à cause de certaines chansons jugées trop graveleuses ou trop contestataires. Peut-être qu'aujourd'hui, il en irait de même. On dirait, oh là là, qu'est-ce qu'il ose dire sur les femmes? Voilà, il y a encore des chansons qui pourraient choquer s'il était vivant aujourd'hui, mais il a fait lui-même une chanson pour dire qu'on pardonnait à ceux qui nous ont offensés quand ils ont cassé leur pipe. Ben on lui pardonne tout maintenant.
Maintenant qu'il a cassé sa pipe, et le temps ne fait rien à l'affaire autour de la question de la connerie et pourquoi faire la psychologie de la connerie. En votre compagnie, Jean-François Marmion, on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier peut-être, la connerie se porte bien, très très bien même, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sommes-nous en train de devenir collectivement cons, bêtes et méchants sur les réseaux sociaux? C'est l'éclairage d'un des auteurs que vous avez interrogé pour cette psychologie de la connerie, le professeur François Jost, qui a notamment étudié la méchanceté à l'ère numérique et qui détaille, au micro d'Alice Milot, les trois éléments générateurs de la connerie sur les réseaux sociaux.
Il y a une première chose qui est que l'image de soi compte plus que le vécu, c'est-à-dire qu'on est réduit à la pure apparence. Deuxième chose, c'est l'extension du jugement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde juge n'importe quoi. On juge, on note, c'est une activité vraiment inhérente aux réseaux sociaux. C'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose importante qui va conduire à ce qu'on pourrait appeler la connerie, c'est la recherche de célébrité. C'est-à-dire, à travers les réseaux sociaux, trouver un moyen de sortir du lot. Par exemple, il y a tous ces défis qui poussent à des comportements stupides, des selfies. On risque sa vie. Il y a eu 290, un peu moins, de morts en 6 ans de gens qui ont reculé dans un précipice, sont tombés à l'eau, ce qui est quand même une mort dont on peut convenir qu'elle est assez conne. Le fait de rire de quelqu'un à qui il arrive des malheurs, c'est à la fois stupide et en même temps méchant. Et cette méchanceté, je veux dire, c'est pas Internet qui l'a créé. Ce qui a changé, c'est que il y a une facilité à réagir à tout ça qui n'existait pas.
Vous voulez réagir à cet éclairage de François Jost, Jean-François Marmion?
Oui, on tremble en pensant à ce qu'auraient été les réseaux sociaux dans les années 40, par exemple pendant l'occupation, ou pendant les guerres de religion en France au XVIe siècle. Il y a quand même eu 8 guerres de religion entre chrétiens.
Bon. Rappelons-le au passage.
Oui, voilà. Donc, évidemment, on tremble. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est plus con pour autant? Je pense que ça se voit mieux, qu'on a moins de scrupules à l'être, parce qu'en plus on peut l'être anonymement. Alors là, lâchons-nous, hein. 280 caractères, on peut lancer une connerie, personne ne saura qui on est. C'est assez tentant.
Ça serait des accélérateurs de conneries, les oui, réseaux sociaux, des généralisateurs.
Oui, ou des loupes grossissantes. Mm-hmm. En même temps, est-ce que vraiment on est plus con qu'avant? C'est pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens intelligents mais prudents qui ne réagissent pas sur les réseaux sociaux, qui préfèrent ne pas commenter, qui n'ont pas envie de se lancer dans la bagarre avec des connards qui vont les juger, les insulter tout de suite. Ils disent bon bah débrouillez-vous sans moi. Donc j'ai l'impression que on pense qu'il y a beaucoup de connards dans les réseaux sociaux et parmi les commentateurs.
En fait, ceux qui réagissent, ce sont plutôt les cons ou les connards que les autres.
C'est plus facile pour eux, ils ont moins d'inhibition. Quoi. Je décide que celui-là est un pourri, que ça c'est très bien, que ça c'est très mal. Je le décide, je ne donne pas d'arguments, je suis sincère, donc j'ai raison. Alors il y a des gens plus prudents qui ne réagissent pas.
En même temps, à nos auditeurs à Libreville, au Gabon, Gaël nous dit qu'il a l'impression que la connerie se généralise un peu et qu'il a l'impression qu'en Occident, le phénomène progresse très vite quand il entend des intellectuels, entre guillemets, hein, ici des Zemmour et d'autres, venir vendre leurs livres à coups de grosses conneries. C'est vrai que dans les médias aussi, on assiste à une généralisation, quoi, un lâcher de cons et de conneries.
Alors... Pourquoi inviter des cons? C'est ça la vraie question.
Oui, c'est ça la vraie question.
C'est ça la vraie question. Pourquoi on n'invite pas des gens intelligents? Et pourquoi les gens regardent des cons?
Parce que ça marche bien, vous le dites vous-même, dans les médias, ça marche bien, les titres à la con,
Bien sûr, dans le livre, on reprend des titres des journaux américains du 19e siècle. C'est aussi atterrant qu'aujourd'hui. Mais pourquoi les gens achetaient? Et pourquoi on titrait comme ça? Parce que les gens achetaient. Et pourquoi aujourd'hui on invite des cons? Peut-être moi le premier. Parce que les gens écoutent. Comme disait Coluche, il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça ne se vende plus. Bah, arrêtez de regarder les cons, d'acheter leurs livres, de les écouter, de vous indigner après leurs conneries. Ils vont disparaître s'il n'y a plus de réaction.
Il faudrait faire moins de bruit autour de la connerie.
Bah ouais, puis inviter d'autres gens, prendre le risque d'inviter d'autres gens, mais il y aurait peut-être moins d'audience aussi.
Il faut prendre des risques en tout cas, parce que sinon aujourd'hui on peut être à la fois con, bête, méchant et connecté. On n'arrête pas le progrès sur RFI en musique. Les cons avec les Oufris Maracas.
Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Moi qui vous vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler, le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies, mais quand même elles m'ont l'air pourries, vous allez bouffer en grande surface, vous devrez savoir que c'est dégueulasse. Prenez jamais le temps de rien, vous éteignez comme des chiens, et puis après pour vous calmer, vous achetez une nouvelle télé. Je crois que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande de l'OTB, les jeux où on gagne du pognon. Vous avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez, que c'est tant pis de mépris qui vous boufferont jusqu'au trognon. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté, jamais je serais allé si loin, c'est certain, c'est certain. Tous dans le même panier, vous pourriez pas tous y rentrer. Plus moi ça me filerait le bourdon de voir une telle concentration. Constellation, conspiration, constellation. La connerie individuelle, même si parfois elle me dépasse, ne sera jamais aussi cruelle que la sacro-sainte connerie de la masse. Celle qui nous fait faire la guerre, qui nous fait voter pour des cons, qui dans l'Arlande, instinct grégaire, nous fait respecter notre patron. Faut dire quand même cet enfoiré sur nous qui fait son pognon. Il nous la met toute la journée, il faudrait qu'on reste mignon. Et je vous parle pas des banquiers qui ont dévalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt. Moi j'ai pas droit au chic en bois. Et toi tu as droit, non, tu as pas droit, toi t'es comme moi. Mais que faudra-t-il qu'ils nous fassent pour qu'au final on réagisse? Si les familles nous laissent de glace, si Serge Dassault protège nos vices. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire qu'il y a les gens bien, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Ils sont 200 fois plus nombreux que la bande d'imbéciles heureux qui nous emmène tous au carton avec trompettes et clairons.
Les Oufris Maracas sur RFI qui chantent les cons. Alors évidemment, les cons, ce sont les autres, mais les cons, ils nous fascinent aussi, toujours, Jean-François Marmion.
Oui, tout à l'heure, on parlait des programmes stupides ou des réseaux sociaux où on va systématiquement cliquer sur un truc navrant. Nous-mêmes, on trouve ça con. Mais pourquoi on ne clique pas sur autre chose, bon sang de bois? Pourquoi? C'est incroyable, on a le choix. On n'a jamais eu autant le choix qu'avec Internet. Toutes les émissions de radio du monde sont à notre portée, avec un doigt. toutes les théories philosophiques du monde, toutes les archives du monde, tous les livres du monde. Et on préfère aller sur des conneries, on préfère aller voir des petits chats, ou on préfère regarder Cyril Hanouna en disant qu'est-ce qu'il est con, mais n'empêche qu'on est tout aussi con d'y aller. Qu'est-ce qui nous oblige à y aller si on le trouve con? Qui est le plus con là-dedans?
La réponse à nos auditeurs et internautes, et à nous-mêmes, hein, autour de la question « Pourquoi et comment faire une psychologie de la connerie ?» Dernier éclairage, c'est celui d'une sociologue, elle s'appelle Liora Israël, elle travaille à l'EHESS, et elle était à l'initiative, entre autres, du programme PAUSE, d'accueil en urgence pour les chercheurs forcés à l'exil. On l'écoute.
Je trouve intéressant de voir qu'il y a qu'on dit psychologie de la connerie, quand souvent c'est une sociologie qu'on devrait faire, c'est-à-dire que c'est au niveau global aussi que les gens sont parfois idiots ou plus, et notamment les préjugés sur l'autre et les difficultés qu'on a parfois à faire comprendre l'importance de l'accueil montre bien que ce sont des phénomènes partagés et qu'il faut s'attacher à déconstruire à l'échelle des sociétés et pas seulement à l'échelle des individus.
Un monde ou une société sans connards, où l'on pourrait déconstruire justement tous nos préjugés. C'est quoi, c'est une utopie? C'est complètement irréalisable, Jean-François Marmion?
Oui, bien sûr. Cela dit, il y a la psychologie dite sociale qui s'intéresse à nos représentations des autres groupes. Évidemment, notre groupe à nous est toujours le meilleur. Mais singulièrement, on explore ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est-à-dire les clichés, les grandes catégories dans lesquelles on enferme les gens. Et là, connerie assurée, de toute façon, tous les migrants sont ceci ou cela. Toutes les femmes, hein, tous les hommes, tous les jeunes, tous les vieux,
là,
tous les psychologues,
dans la connerie,
tous
là.
Les musulmans, tous les juifs, tous les athées. De toute façon, ils sont tous des... de toute façon, il y a une connerie au bout. Et on ne peut pas raisonner autrement. On est obligé de se représenter dans un groupe dans lequel on se reconnaît, c'est notre identité. Automatiquement, on trouve les autres groupes moins intéressants, donc un peu plus cons, et parfois, on se laisse aller à les trouver hostiles, nuisibles, il faut les combattre. On est en plein dans la connerie.
Donc il suffit peut-être quand même, si vous disiez que c'était très fatigant, d'avoir cette espèce de petit moment de recul, de dire attention à la généralisation, il y a quelques petits signaux d'alarme, signaux d'alerte qui pourraient nous faire réagir quand on devient vraiment trop con.
Oui, ce souvenir qu'on fait ces généralités par commodité, par paresse. C'est plus facile. Mais souvent, ça ne nous intéresse pas plus que ça de creuser, parce que ça pourrait trop nous remettre en question. Il y a vraiment une forme de paresse intellectuelle, et on devrait au moins faire l'effort de se rappeler qu'on peut se tromper, et que peut-être on y va un peu fort. Voilà, ça c'est la phrase magique. On peut dire une grosse connerie, mais on ajoute, ceci dit, c'est mon opinion.
Peut-être que je me trompe. La pire bêtise serait de se croire intelligent. C'est Jean-Claude Carrière, écrivain et scénariste, qui rappelle ça dans votre ouvrage.
Oui, parce que quand on se croit intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au-dessus de la mêlée, qu'on est moins con qu'un autre, qu'on a compris plus de choses. Et puis il cite Flaubert qui dit « La bêtise, c'est de vouloir conclure ». La bêtise, c'est de croire qu'on a tout compris, que les choses sont comme ça, et que si les choses apparaissent autrement, c'est les choses qui se trompent, c'est pas nous.
Au fond, c'est vraiment d'être sûr qu'on a raison. Il y a une espèce de certitude, tout le monde est comme ça, et je suis sûr que moi je suis dans le vrai, et donc les autres sont dans le faux. Là, on est quand même très proche de la connerie la plus méchante qui soit.
Je pense qu'on est en plein dedans, oui, à pieds joints.
Alors, il y a quand même, comment dire, la connerie, c'est pas que négatif. Quand on arrive à la fin de cette psychologie de la connerie, on tombe notamment sur Toby Nathan, qui nous parle de la connerie dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés, et qui dit que la connerie pourrait aussi être le bruit de fond de la sagesse.
Oui, parce qu'il faut bien se faire une raison, on ne changera pas les connards, on n'est pas assez fort pour ça, on n'est pas assez malin pour ça. Donc il y a un moment, on est bien obligé de s'habituer un petit peu, d'être indulgent. Soit il y a deux solutions, soit on fait comme Alceste dans le Misanthrope, on s'en va, on fait les valises, on va dans le désert, on est tout seul, là il n'y a pas de con. Et encore, si on croise un chameau,
on est
mal.
Quand même avec soi-même.
On est avec soi-même, on va dire qu'est-ce que je fous dans le désert. Bon. Mais ou alors, on fait avec, on apprend à être indulgent. On apprend à comprendre que nous aussi, on a été aussi cons que ça quand on était plus jeunes. On apprend plein de choses. Et puis à force de voir de se faire avoir sur Internet, à force de se faire intoxiquer par des fake news, tout ça, ça nous apprend aussi à être un peu plus prudent et un peu plus critique. Et pas forcément envers les autres, mais envers notre propre crédulité. Donc on peut retourner la connerie à son avantage, mais c'est pas facile.
On peut se pardonner, accepter ses conneries. C'est aussi une jolie piste, ça, d'accepter ce qu'on est finalement.
Oui, et de s'aimer bien comme ça. On est dans une société où on vous pousse à être toujours meilleur, toujours plus performant, toujours plus malin, toujours plus jeune, toujours plus sûr de soi. Mais on est humain, ça marche pas comme ça. On peut essayer de faire des efforts pour être moins con, mais faire des efforts pour être parfait, on replonge encore plus bas dans la connerie.
Donc il vaut mieux jouer au con de temps en temps quand on le sait, et entre amis.
Alors ça, c'est très très bien de jouer au con, se faire plus con qu'on ne l'est, ça c'est une excellente stratégie. comme disait Courteline, se faire traiter de con par un imbécile est un plaisir de fin gourmet. Donc, et oui, se faire plus con qu'on ne l'est, c'est génial. On avance masqué parmi les cons, c'est fantastique.
Alors justement, à ce propos, vous-même, François Marmion, est-ce que ça va mieux de ce côté-là depuis que vous avez travaillé et écrit cette psychologie de la connerie?
Non, ce serait trop beau. Ce serait trop facile. Non, ce serait surtout la bien grande fatuité, la bien grande connerie de penser que maintenant, je suis beaucoup moins con et je suis expert et je sais qui est con.
Vous reconnaissez que vous êtes toujours aussi con?
Oui, mais je change de connerie avec le temps. Je suis pas con comme je l'étais à 15 ans, heureusement. Et je suppose qu'à 80 ans, je serai un vieux con. J'aurais encore changé. Il y a des conneries multiples. On peut être con dans différents domaines, mais au fil de son existence, certes, quand on est con, mais on change de connerie. Il y a des nuances. Il y a 50 nuances de con.
50 nuances de con. Et donc, pas s'accrocher à ces conneries, ça pourrait être une piste, ça pourrait être un petit message pour nos auditeurs de ne pas s'accrocher à ces conneries.
Oui, ne pas se morfondre en disant qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis nul. C'est pas vrai. On est humain, donc on fait tous des conneries, on en dit tous. Moi-même, j'ai dû en dire depuis le début de cette émission.
Et moi donc?
Peut-être que je passe pour un con parce que j'ai le trac, je bafouille, je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est humain. Ce qui est plus grave, c'est d'avoir des conneries nuisibles. Des conneries qui font du mal. Moi, si je dis des conneries aujourd'hui, je pense pas que j'ai fait du mal à quelqu'un. Sinon, à moi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais s'accrocher dans la connerie qu'on inflige aux autres, là, c'est plus fâcheux.
Sujet en tout cas inépuisable à creuser, vous allez le creuser j'imagine François Marmion, parce qu'après cette psychologie de la connerie vous n'allez pas vous arrêter là, il y aura Israël parler de sociologie possible de la connerie.
Bien sûr, mon rêve ce serait de fonder une science de la connerie, une conologie ou...
Une conologie, génial, moi j'adhère hein.
Parce que j'ai beaucoup d'autres sujets en perspective pour d'autres volumes de la psychologie de la connerie, mais on peut faire la sociologie de la connerie, l'anthropologie de la connerie, l'histoire de la connerie, connerie et religion, connerie et politique, c'est vertigineux.
Abyssal, hein.
Ouais, ouais.
Merci infiniment Jean-François Marmion d'être venu nous donner un petit avant-goût. Donc finalement, je ne saurais trop conseiller la lecture de votre essai qui s'intitule donc Psychologie de la connerie, qui est paru aux éditions Sciences Humaines. Un très joli objet en plus, un ouvrage assez unique en son genre qui devrait tous nous concerner, on va dire, qui pourrait être, on l'a dit au cours de cette émission, un joli petit cadeau de Noël à glisser à un con de oui, notre oui. entourage supérieur ou inférieur.
Cela dit, vous dites que c'est un essai, c'est quand même, il y a 30 intervenants, tous plus intelligents les uns que les autres. Moi, j'ai dirigé le truc.
Les plus éminents philosophes, neuroscientifiques et psychologues de la planète.
Absolument. Moi, l'intérêt, c'était d'avoir des gens extrêmement intelligents qui parlent de la connerie. Donc,
qui ont tous accepté de parler de la connerie.
Sauf un psy, je ne vais pas dire qui c'est, qui m'a dit « Ah, je manque de recul ». Alors, je ne sais pas s'il était sincère ou s'il était de l'humour ou pas.
On ne veut pas savoir ça. Non. Merci infiniment, Jean-François Marmion.
Merci à vous.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour une émission de reportage à remonter le temps sur les traces de notre humanité en Éthiopie. Notre reporter, Charlie Dupiot, a suivi les fouilles d'une équipe transdisciplinaire internationale de chercheurs dans la bien nommée vallée de l'Omo. Et vous verrez, ça vaut le détour. À demain donc avec Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. Prochain journal dans une bonne minute.